Vous êtes sur RTL.
RTL, l'invité des petits matins.
Bienvenue sur RTL. 6h14 ce matin, vous l'avez compris, cette matinale est largement consacrée à cette traque terminée désormais. Strasbourg souffle ce matin. Le tueur du marché de Noël a été abattu hier soir. Shérif Chekat se cachait bien dans le quartier du Neudorf. Une patrouille a voulu le contrôler dans une rue hier soir. Il a alors ouvert le feu. Les policiers ont riposté et l'ont tué. 1h20 seulement après l'annonce de cette mort, Daesh a revendiqué l'attentat. Bonjour Claude Moniquet.
Bonjour.
Vous êtes un ancien de la DGSE, vous êtes expert en terrorisme. Dites-nous ce matin, on s'interroge, est-ce que cette revendication de Daesh, elle est crédible? On ne sait pas encore factuellement si Chekat avait effectivement prêté allégeance au groupe terroriste.
Voilà, toute la question est là en fait. C'est un point, je dirais, presque juridique du point de vue djihadiste. Il y a quelques années, je vous aurais dit oui, elle est crédible, parce qu'il y a quelques années, on savait que l'État islamique ne revendiquait un attentat que quand il y avait un lien avec l'auteur. Depuis un an, depuis qu'il est en chute libre au Moyen-Orient, territorialement parlant, les critères de revendication sont beaucoup plus souples et beaucoup plus opportunistes. Donc la question, c'est effectivement de savoir s'il y avait un lien ou pas. Maintenant, il y a un indice quand même, c'est que lors de la perquisition mardi matin chez Chekat, la police, outre des armes et une grenade, avait découvert un texte appelant au djihad. Alors, est-ce que ce texte était de la main de Chekat? Est-ce qu'il venait de l'État islamique? En tout cas, il était en sa possession. Donc, l'intention djihadiste de Chekat ne fait aucun doute. Maintenant, reste à savoir effectivement si cette connexion avec l'État islamique existe ou pas.
Pourquoi Daesh, justement, a attendu le décès de Chekat pour revendiquer l'attaque?
Ah ben précisément, je pense, parce que on attendait qu'il soit mort. Ça, par contre, il y a une constante. Il est très rare que l'État islamique revendique un fait, revendique un acte quand l'auteur des faits est encore vivant, ou que l'auteur des faits n'est pas en fuite loin de l'endroit du lieu de commission de l'attentat. Et ça, ça laisse peut-être penser qu'effectivement cette revendication pourrait être sérieuse. Maintenant, si elle l'est vraiment, ce qu'on pourrait avoir dans les heures à venir, c'est une vidéo, un enregistrement, peut-être un texte signé par Chekat.
Avez-vous été surpris de voir Chekat abattu dans le quartier où il a grandi, où il avait été localisé juste après l'attaque? Finalement, il ne pouvait pas aller ailleurs blessé?
Écoutez, je vais me permettre une lapalissade. Il était là où il n'y était pas. S'il n'y était pas, ça veut dire qu'il avait des complices qui avaient pu peut-être le soigner, le véhiculer hors de la zone et l'emmener plus loin, peut-être même jusqu'en Allemagne où on l'avait cherché dès mercredi matin. Le fait qu'il était là montre qu'il était vraiment, il était seul au début de l'action, au moment de l'action, qu'il était probablement entouré avant. On lui a fourni une arme, on a concrétisé sa radicalisation, mais que par contre, après l'action, il était seul. Il était seul parce que son entourage familial était en garde à vue. Un de ses amis proches, son ami le plus proche, était en garde à vue. Et aussi parce que les complices de droit commun qu'il avait et sur lesquels il aurait peut-être pu se reposer, eux, avaient été arrêtés mardi matin quand la police avait raté Chekat lui-même à son domicile.
Ça veut dire que c'est peut-être le profil d'un assaillant qui certes s'est radicalisé avec d'autres intégristes, mais qui aurait peut-être décidé d'agir seul.
Alors moi, mon impression, mais pour le moment c'est vraiment une impression, c'est qu'on a donc quelqu'un qui s'est radicalisé, quelqu'un qui est hyper violent, 27 condamnations pour des faits quand même souvent de violence grave, tentative d'égorger un adolescent avec un tasseau de bouteille, etc. On a quelqu'un qui a une bonne nature, si on peut dire. Donc il y avait cette violence, il y avait la radicalisation, et sans doute un projet d'attentat. Maintenant j'ai l'impression, mais c'est mon intuition personnelle, que ce qui s'est passé, c'est que mardi matin, perquisition, il a l'impression, il sait qu'il est recherché pour meurtre et tentative de meurtre, il sait que s'il est pris, ne sortira pas avant des années, et que donc s'il veut passer à l'acte, c'est immédiat. Et à mon avis, le phénomène déclencheur, ça a été ça. Sinon, peut-être qu'il aurait encore attendu quelques jours avant de frapper et qu'il l'aurait frappé de manière encore plus meurtrière.
Maintenant que cette traque, elle est terminée, on en revient, j'ai envie de dire malheureusement, comme après chaque attentat, à ce débat, comment mieux surveiller ces fichiers S radicalisés au passé violent. Vous parliez de bonne nature, effectivement, 27 condamnations en France, en Allemagne pour Chekat. Ils sont nombreux, ces fichiers S violents et radicalisés. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque fichier S, on ne peut pas les enfermer préventivement. Est-ce qu'il y a une solution?
Mais c'est un peu difficile à dire, effectivement, on l'a tous remarqué, vous l'avez remarqué, la polémique a commencé dès hier, hein, même dès avant-hier, si on peut dire.
Alors, dès le soir même de l'attentat, d'ailleurs,
soir même,
très très tôt.
On s'y attendait, c'est un sujet politique par excellence, dont l'opposition, quelle qu'elle soit, s'empare toujours. La réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a au fichier S 14-15 000 radicaux, au FSPRT, le fichier qui, lui, se concentre sur les islamistes radicaux, on a 20 500 personnes, dont 4 000 considérées comme étant des des sujets d'intérêt par les services de renseignement, ce qui concentre leurs moyens sur ces 4000, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'ailleurs tous suivis 24 heures sur 24, hein, ce serait pas possible. Et manifestement, chez Katsui, il n'était pas dans le haut du spectre. Alors, c'est pas la première fois, il n'était pas dans le haut du spectre, il était encore considéré comme quelqu'un qui s'était radicalisé récemment, qui était plus encore un criminel de droit commun qu'un djihadiste. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Moi, je ne pense pas que ce soit une erreur. Je pense que la police travaille avec ses moyens, les moyens que lui donne l'état de droit et ses ressources. Et que dès lors, le travail qui est fait est quand même formidable, parce que la police et les services de renseignement en France empêchent des attentats très régulièrement. Mais malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et là, une fois de plus, on a eu une tragédie. Je ne crois pas que ça remette en cause nos principes de l'état de droit ni le fonctionnement des services.
Merci beaucoup, Claude Moniquet, ancien de la DGSE et expert en terrorisme, d'avoir été ce matin l'invité de RTL pour nous éclairer. Donc, après la mort de Shérif Shekat, le tueur du marché de Noël, abattu hier soir dans le quartier d'Unedorf à Strasbourg. Merci beaucoup, bonne journée à vous.